les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Ronan Raffray, professeur de droit à l'Université de Bordeaux, nous dessine les contours du droit de la vigne et du vin. Deuxième épisode. Le vin est-il un alcool comme les autres ?
Chers auditeurs, pour appréhender la définition juridique du vin, quoi de mieux qu'un bon débat politique sur lequel s'appuyer ? Dans le cadre de l'annonce de la stratégie nationale de santé, Madame la ministre de la Santé et des Solidarités, Madame Buzyn, a déclaré la chose suivante. L'industrie du vin laisse croire aujourd'hui que le vin est différent des autres alcools. En termes de santé publique, c'est exactement la même chose de boire du vin, de la bière, de la vodka, du whisky. Il y a zéro différence. On a laissé penser à la population française que le vin serait protecteur, qu'il apporterait des bienfaits, que n'apporteraient pas les autres alcools. C'est faux. Scientifiquement, le vin est un alcool comme un autre. Écoutons maintenant la réponse de Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture.
Non, je ne crois pas que le vin soit un alcool comme les autres. Vous savez, les jeunes qui se tuent...
Parce que les addictions...
Oui, attendez, je vais vous répondre.
On parle pas de l'alcool.
Moi, je vais vous répondre. L'addiction à l'alcool est dramatique. Et notamment dans la jeunesse, avec le binge drinking, etc. Ouais. C'est dramatique. Mais je n'ai jamais vu, à ma connaissance, malheureusement peut-être, un jeune qui sort de boîte de nuit et qui est sous parce qu'il a bu du Côte-du-Rhône, du Croz-Hermitage, du Bordeaux ou des Costières de Nîmes. Jamais. Ils boivent d'autres. Ils boivent des mélanges, ils boivent des mix, ils boivent de l'alcool fort.
Si vous vous intéressez, comme moi, au vin et à la politique, vous n'avez pas pu manquer cette opposition au sommet de l'État. Les propos de Madame Buzyn constituent une attaque politique très forte. Car Madame la ministre, en ramenant le vin à une industrie et en l'assimilant aux autres alcools, ni l'existence même, dans sa singularité, de la production viticole. Ceci explique que les propos aient été si mal reçus par les producteurs. J'ajouterai que, comme l'ont fait remarquer mes collègues de l'Institut des sciences de la vigne et du vin de l'Université de Bordeaux dans le journal Le Point, il est toujours déroutant d'entendre le monde de la santé s'émouvoir de la place prise par le lobby des alcooliers, nul n'ignorant la place particulière qu'occupe le conflit d'intérêts en matière sanitaire. Cela étant, ce débat, initié par les autorités de santé, pose à mon avis une question sociétale et juridique très pertinente qui est celle de l'identité du vin, identité au sens de ce qui fait son individualité. Et pour le juriste en droit viticole, c'est une occasion rêvée de revenir sur la définition juridique du vin. À ce propos, il est vrai que l'alcool est indéniablement constitutif du vin. La définition légale du vin y fait d'ailleurs référence, et depuis qu'elle existe, en mentionnant un produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés ou non, ou de moût de raisin. Il est également notable que le règlement 1308/2013 de l'Union européenne exige pour le vin un degré minimum d'alcool qui est variable selon les zones de l'Union européenne pour tenir compte des niveaux d'ensoleillement. Cela suffit-il pour affirmer que le vin est un alcool comme les autres ? La question est simple, mais la réponse, comme toujours, est complexe, sur le plan politique comme sur le plan juridique. Commençons peut-être par les contours politiques de ce débat. Et pour poser le décor, je vous propose d'identifier les groupes d'intérêt qui sont à l'œuvre pour influencer la décision publique. D'un côté, l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie, l'ANPA, association loi 1901, reconnue d'utilité publique depuis 1914, est financée par subvention de l'État et par des dons, au soutien donc de la politique de santé et acteur majeur du contentieux né autour de la publicité en faveur des boissons alcooliques. De l'autre, au soutien de la filière viticole et financée par elle bien sûr, Vins et Sociétés, association loi 1901 également, qui dispose d'importants relais au sein de la représentation nationale, car vous imaginez bien que les parlementaires élus dans les régions productrices se montrent généralement plutôt à l'écoute des intérêts des viticulteurs. Face à face donc, deux enjeux que certains voudraient nécessairement opposer. D'un côté, la santé publique et la très légitime lutte contre l'alcoolisme. De l'autre, la production de vin, ses emplois et ses territoires. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que finalement, jusqu'à aujourd'hui, l'équilibre a été trouvé autour d'une consommation modérée. Politiquement, la consommation d'alcool n'est pas en elle-même considérée comme dangereuse, c'est son abus qui doit être combattu. Une distinction peut donc être faite avec le tabac, produit nocif en lui-même, je dirais, pour lequel il n'existe pas de possibilité de consommation modérée. Cette approche politique est illustrée par quelque chose que vous connaissez tous, c'est la mention légale de modération qui accompagne toute publicité en faveur d'une boisson alcoolique. Je vous rappelle que selon cette mention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Cette approche se retrouve plus généralement dans les dispositions de la loi Evin, celle sur la publicité en faveur des boissons alcooliques, qui s'appuie sur ce que l'on appelle la théorie du commerce passif. Selon la théorie du commerce passif appliquée à l'alcool, il est inutile d'en empêcher la consommation, mais on ne doit pas non plus l'encourager. Et c'est ce qui va expliquer les restrictions apportées à la publicité en faveur des boissons alcooliques. Cet équilibre avait été trouvé, mais les forces créatrices du droit sont toujours à l'œuvre pour faire évoluer la législation à leur avantage. Et sur ces dernières années, c'est la viticulture qui a obtenu des succès significatifs. En 2016, notamment, une loi est venue libérer l'information œnotouristique de l'emprise de la loi Evin pour permettre de communiquer sur les terroirs et sur les projets œnotouristiques, ce qui a permis, peut-être l'avez-vous remarqué, le retour à la télévision de formats tels Une Minute, un vignoble, qui permettent de faire la promotion de régions viticoles sans que l'on aperçoive un seul verre de vin ou une seule bouteille de vin. Ce contexte peut expliquer la charge de Madame la Ministre, tout comme les changements de politique profondément souhaités par les autorités de santé. Il a été dit que le message de la consommation modérée avait vécu, ce que le juriste pourra peut-être interpréter comme le projet d'une dénormalisation de la consommation d'alcool. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dénormaliser la consommation d'alcool signifierait la rendre anormale dès le premier verre en raison de la nocivité du produit, et c'est ce qui s'est passé en droit pour le tabac. Le message à poser sur les publicités en faveur des boissons alcooliques glisserait alors de « l'abus d'alcool est dangereux pour la santé » à « toute consommation d'alcool comporte des risques pour la santé ». Et je pense que vous l'avez compris, pour appliquer cette politique au vin, il faut le ramener vers les autres alcools. C'est le sens du propos selon lequel le vin est un alcool comme les autres. À l'heure actuelle, le French paradoxe est peut-être ici, doper la balance commerciale tout en subissant sur le territoire un douloureux anathème sur l'autel de la santé publique. Pour la filière, bien sûr, vous l'imaginez, le vin ne peut être assimilé purement et simplement aux autres alcools. Alors pourquoi ? Car il s'agit d'un produit de terroir, donc de qualité et de culture, dans une période en plus de recherche croissante d'authenticité, de naturalité, et à l'heure où l'œnotourisme permet de nouer un nouveau rapport avec le public. Avouez que c'est dommage. Bien sûr, si on scrute la molécule d'alcool que le vin contient, on verra qu'elle est identique à celle qui est contenue dans les autres boissons alcooliques. Peut-on toutefois dire que, je cite, « scientifiquement, le vin est un alcool comme un autre » ? Bah, tout dépend de la science, j'ai envie de dire. Pour un addictologue, c'est probable. Pour un œnologue, franchement, c'est beaucoup moins sûr. Et pour le juriste ? Première question, le droit traite-t-il le vin comme les autres boissons alcooliques ? Revenons un temps, si vous le voulez bien, sur la définition juridique du vin. La loi du 14 août 1889, portée par le sénateur Griffe, c'est pour ça qu'on l'appelle la loi Griffe, a réservé la qualification de vin aux produits obtenus exclusivement de la fermentation alcoolique des raisins frais. Mais à l'époque, cette définition avait pour fonction de réserver l'usage du mot vin aux vins dits naturels par opposition aux vins artificiels, notamment ceux que l'on obtenait, figurez-vous, par réhydratation de raisins secs. Le curseur n'était donc pas centré sur la présence de l'alcool, mais bien sur les modalités de production, ce qui permet d'ailleurs de comprendre ce fait historique étonnant, Ligue de Vertu et producteur de vin, historiquement côte à côte, pour défiler contre l'alcoolisme. En droit, d'ailleurs, l'étude historique montre bien que le vin n'est pas un alcool, ce que confirme en partie la législation contemporaine qui n'aborde pas de la même manière le vin et les spiritueux. La dimension agricole primordiale de la production viticole et la fermentation, par opposition à la distillation, préservent d'une telle confusion et rend d'ailleurs impropre en droit le terme d'industrie du vin employé par Madame la Ministre. Seconde question, le droit traite-t-il le vin autrement que comme une boisson alcoolique ? Eh bien, je pense que oui. Le droit aborde très particulièrement le vin, ce qu'on aura l'occasion de découvrir dans les prochains épisodes, et pas uniquement comme une boisson alcoolique, mais majoritairement comme un produit de qualité lié à l'origine, un produit du terroir, ce qui est une facette fondamentale de la production française de vin, dominée par les vins d'appellation d'origine protégée ou d'indication géographique protégée. Le terroir peut ainsi mettre à distance le terme « alcoolier » utilisé par les détracteurs de la filière. Le Code de la santé publique lui-même ne dit pas autre chose lorsqu'il rappelle que la publicité en faveur des boissons alcooliques peut comporter des références relatives au terroir de production, aux distinctions obtenues et aux appellations d'origine. Pour le juriste, donc, le vin n'est pas un alcool comme les autres, ce que confirmera peut-être la prochaine présentation consacrée à l'appellation d'origine viticole. Je vous dis à la semaine prochaine.
Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphidamicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.